Bonjour à toutes et à tous. Je reprends mon propos sur Haussmann et la transformation de Paris avec ce questionnement que je posais. Est-ce que la méthode d'Haussmann, encore faut-il la réexpliquer avec ses erreurs et ses qualités, est-elle applicable à notre problème national, le problème de la sécession d'une partie de territoire qu'on appelle les banlieues sensibles, mais probablement aussi d'autres quartiers ou dans ce qu'il est convenu d'appeler effectivement les territoires aujourd'hui, la France périphérique, en fait, c'est-à-dire de remédier à ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation, que d'autres pourraient appeler la balkanisation, mais en fait qui serait la perte de l'unité nationale et de la continuité à la fois des quartiers et des villes, évidemment, avec les conséquences que ça peut amener de populations qui deviennent antagonistes avec les conflits qui peuvent découler de cette situation. Alors, j'expliquais la semaine dernière que Haussmann avait pris une situation qui était difficile d'un Paris qui, au fil des âges, avait perdu l'unité qu'il avait pu avoir dans d'autres périodes. C'est un peu le cas de la croissance ou des changements des villes. C'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, la trame initiale est détournée et scindée en des quartiers. Alors, ça fait partie de ma théorie générale qui oppose la structure qui va être égalitaire et tramée et en opposition à la forme que je pourrais dire sans que ce soit péjoratif, la forme tribale, c'est-à-dire en opposant le carré au cercle, en opposant un espace communautaire, républicain, lisible, mais même si c'est dans une autre, dans d'autres régimes, et à des formes qui sont fragmentaires et, comme je vous disais, communautaires et tribales, sans qu'on mette un terme négatif sur cela. Alors, j'ouvre une parenthèse. Il n'y a pas de forme idéale, et les formes, qu'elles soient celles de la trame régulière ou d'une succession de communautés, n'est pas l'une serait vertueuse et l'autre ne le serait pas. Ça, c'est des travers, je pense, de l'époque, d'essayer de plaquer sur les formes de la morale. Donc, je pars du principe que les formes sont neutres et ce sont les sociétés humaines qui les utilisent en, disons, d'une manière plus ou moins heureuse et certaines pacifiées et certaines conflictuelles. Donc, pour revenir à notre histoire haussmannienne, donc, comme je vous disais, les villes qui partent d'un système régulier, avec le temps, on a ce système qui se déforme. Par exemple, reprenons une ville plus récente comme New York et la plupart des villes américaines qui sont construites sur des trames régulières, des damiers. Et d'ailleurs, New York, comme tout le monde le sait, les rues sont numérotées, donc il y a une sorte de neutralité de l'espace, puisqu'on ne renvoie même pas à des grands hommes, à des histoires qui peuvent être des appartenances communautaires ou nationales. Donc on est sur la ville des immigrants qui arrivent et tout est numéroté comme une grille de mots croisés. Donc, on a un espace neutre. Mais on a vu que avec le temps, et vous avez le cinéma, Scorsese et d'autres réalisateurs ont montré la petite Italie, le quartier chinois et les tribus, on peut dire, entre guillemets, qui existent et qui ont toujours existé à travers le damier régulier, même si ça ne se voyait pas, eh bien, ces tribus peuvent reconstituer de leur pays d'origine des endroits qui sont, disons, la propriété de ces habitants et des quartiers qui ne sont plus pénétrés, ou du moins difficilement. On a vu ça avec la naissance de quartiers chinois, avec des portes, et on rentre dans un quartier qui est différent et étranger si on n'est pas de cette nationalité, de cette communauté. Donc vous voyez que ce phénomène existe toujours, et comme j'avais expliqué une autre fois, on a toujours, à travers une forme, l'autre qui perdure. C'est-à-dire que à travers la forme du damier, il y a toujours la forme des communautés qui perdurent, et d'une manière aussi inversée, dans des formes communautaires, il y a toujours un ordre collectif qui existe, même s'il n'est pas visible et qui n'existe que dans les relations humaines et dans des règles que les sociétés établissent. Donc, pour revenir à Haussmann et aux premières erreurs qu'il avait faites sur l'île de la Cité, ensuite, il crée un Paris. D'ailleurs, il est en continuité avec, pour Napoléon III, avec les transformations qu'avait déjà commencé Napoléon Premier, que l'on est en train de célébrer actuellement, et notamment le célèbre tracé de la rue de Rivoli qui a été dû à Napoléon Ier. Donc, on a déjà cette transformation qui est de rendre les traversées égales avec des façades, c'est-à-dire qu'en fait, quand on traverse Paris, et c'est le cas aujourd'hui, on traverse des quartiers différents, mais en fait, on a une unité du passant ou de l'automobiliste, de la ville, qui crée justement la qualité de la ville lumière, et tout en ayant gardé le pittoresque que l'on peut retrouver dans des quartiers qui sont différents. Par exemple, Saint-Germain-des-Prés continue à avoir son église, la place Furtenberg, des rues étroites, et de même que le Marais ou d'autres quartiers du 18e populaire, et il y a toujours ce renvoi à un axe principal. Alors, un exemple qui est le plus frappant, c'est dans le quartier qui aujourd'hui est devenu culturel, qui était l'ancien quartier des Halles avec Beaubourg. Donc, c'était le quartier, le ventre de Paris, avec différents types de commerces plus ou moins licites. Et aujourd'hui, vous avez le boulevard Sébastopol, donc qui est la référence haussmannienne on peut dire, unificatrice. Mais vous avez à côté la rue Rabotot, la rue Saint-Denis, où continue d'y avoir le sentier avec probablement des combines, comme les prostituées aussi de la rue Saint-Denis. Et donc, on a un quartier qui garde depuis Saint-Louis les caractéristiques d'être un quartier marginal, et simplement on a à côté le boulevard qui lui est neutre. Il est comment dire, codifié comme un espace ouvert à tous et sécurisé. Donc, quand on parle aujourd'hui de sécurité, on a le choix d'aller dans des rues malfamées ou d'aller dans l'espace qui est sécurisé. Et donc, j'en viens bien sûr à ce que je vous disais la semaine dernière, c'est-à-dire est-ce que l'on peut appliquer cela dans nos quartiers difficiles. Donc, la méthode généralement admise et qui est la plus, on peut dire, immédiate et sans réflexion, c'est ce qu'a fait Haussmann en démolissant l'île de la Cité. Et il n'a pas démoli Notre-Dame, mais il a démoli tout autour. Et il y a des bâtiments sinistres là, de la préfecture de police ou de la préfecture de Paris qui sont particulièrement laids et tristes. Et donc, la même politique de table rase a été appliquée dans des grands ensembles, et on a démoli des quartiers, on a démoli les tours, on a démoli les bars, parce que on part d'un principe très infantile de penser qu'il y a une relation entre la forme bâtie et les problèmes des gens. En fait, ça, c'est une thèse qui a fait florès. On a appelé cela l'architecture criminogène. Donc, les tours seraient, que l'on démolit seraient donc fauteuses de troubles sociaux, mais personne ne se pose la question de voir des tours bien plus hautes, par exemple à New York, puisque je vous parlais de New York à Manhattan, qui sont des tours d'habitation pour des gens très riches, qui sont évidemment des havres de paix et de bonheur pour les habitants, et sans problème. Donc la forme est indifférente. Alors, les hommes politiques aiment bien ça parce que c'est une solution toute simple, et les architectes aussi. Alors, pour une raison assez curieuse, parce que d'une part, ça permet aux générations nouvelles de pouvoir taper sur les générations précédentes en disant regardez les horreurs qui ont été faites dans l'après-guerre, et puis nous, on a bien compris comment il fallait faire, on est très très bon, et donc on a tourné la page. Donc, les architectes qui pourraient dire nous ne sommes absolument pas responsables des problèmes sociaux, puisqu'ils sont indépendants de la forme architecturale, mais ils aiment bien parce que ça leur donne l'illusion d'être des dieux, d'être des deus ex machina, d'avoir la possibilité justement d'influer sur les populations. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur de la profession et que les écoles d'architecture s'empressent toujours de répéter aux étudiants. Alors, évidemment, j'ai une position qui est tout à fait opposée. En disant que les bâtiments sont neutres. D'ailleurs, comme je l'avais pu vous le dire, les bâtiments ne dépensent pas de l'énergie, l'architecture ne produit pas de CO2, ce sont les habitants et leurs actions, et quand un bâtiment n'est pas habité, ou quand un bâtiment est un entrepôt, eh bien, il ne consomme aucune énergie, et donc l'architecture est neutre, mais ce qui n'est pas le cas des habitants. Donc il y a toujours un mélange entre le fond et la forme qui est assez inquiétant dans notre époque actuelle. Donc il s'agit de mettre à plat certaines choses, et avant d'expliquer justement ces grandes continuités qui ont fait le Paris que l'on a aujourd'hui, donc ce Paris du 19e siècle qui nous reste avec ses qualités et qui me semble être un exemple parce qu'il a trouvé une solution intermédiaire entre la démolition et aussi la position opposée aujourd'hui, on peut dire une sorte de conservation, de conservatisme qui va momifier les centres-villes, par exemple, où on ne va pas pouvoir toucher à rien, et donc cette politique, notamment cette politique des centres-villes, et j'en ai parlé de nombreuses fois, et effectivement fait partie de cette de ce conservatisme qui me paraît dangereux, puisqu'il va créer justement la forme circulaire, la forme tribale refermée, et il est très étonnant de voir que aux dernières élections municipales à Toulouse et partout, dans toutes les villes, personne ne s'est posé la question justement de pourquoi, au lieu de refermer les centres-villes sur eux-mêmes, avec l'interdiction de la voiture et de faire des plateaux piétonniers et je ne sais quelle faribole, de dire au contraire, il faut unifier les centres-villes avec le quartier, ce qui a été le cas bien souvent dans de nombreuses villes, mais par exemple, qui a été tenté à Toulouse, puisqu'on a les grandes traversées Languedoc, rue Alsace et rue de Metz, qui reprennent dans le tissu du damier médiéval des continuités, mais qu'aujourd'hui on s'efforce de fermer, et ça c'est évidemment quelque chose qui me paraît aller à l'envers avec les besoins de la réalité. Alors, reprenons cet exemple des centres-villes. L'idée donc, ce serait justement au lieu de créer des portes, comme certains voudraient le faire, c'est justement supprimer les portes et de créer des continuités et faire que les quartiers dits sensibles, encore une fois, aient des traversées semblables et une continuité où le passant aurait à la fois une vision assez unifiée à travers les éléments secondaires qui peuvent être les sols, des accompagnements architecturaux, mais aussi des arbres, de mobilier urbain, et aussi des éléments sécuritaires qui créent un espace en continuité. Alors, cette idée de continuité n'est pas une idée nouvelle et je n'ai absolument pas la paternité. Reprenons par exemple l'Empire romain. Que fait l'Empire romain sur l'Europe romaine de la Pax Romana? Eh bien, il crée des voies unitaires, c'est-à-dire il crée des voies romaines, c'est-à-dire que il conserve une grande partie des villes existantes, il crée des villes nouvelles, et par contre, il crée des voies absolument semblables et continues sur tout l'Empire. Alors, on parlait de Napoléon ces temps-ci, d'ailleurs, Napoléon a fait pareil, il a créé des voies avec l'Italie, avec l'Allemagne, et reprenant en cela l'exemple romain qui, évidemment, est au cœur de notre civilisation. Donc, on va marquer une pause musicale et on va reprendre ce propos.
Up until
Je vous parlais donc de l'Empire romain et l'exemple de Napoléon, mais Jefferson pour les États-Unis dans la construction des États-Unis d'Amérique s'est servi de l'exemple romain qu'il était d'ailleurs venu étudier en Europe pour mieux comprendre et il a établi sur cet immense territoire aussi une trame régulière de damiers, de grandes voies numérotées que tout le monde, je pense, a vu ça, sans être allé aux États-Unis, du moins, dans les films ou à la télévision. Donc, justement, l'Empire romain, il crée à la fois cette unité visible et compréhensible qui va être cet espace qui va symboliser la République ou l'Empire dans ce cas-là. En tout cas, la Pax Romana, ça va être cette unification de l'Empire. Mais il en est de même dans la ville, c'est-à-dire que dans le cas par exemple de Paris, mais c'est le cas de toutes les villes, il y a cet espace de référence publique qui lui va être nettoyé, sécurisé, l'espace public, et puis il y aura à côté des quartiers avec leur caractère, marché, des populations différentes, et aussi, on peut dire, ce qui est aussi fait partie de l'intime, et puis aussi ce qui fait partie des sociétés, c'est-à-dire des choses plus ou moins légales, comme je vous disais tout à l'heure, dans le quartier des Halles. Donc ça, je veux dire que il ne s'agit pas donc d'éradiquer et de remplacer par un autre modèle, parce qu'on peut refaire ça, et ça a été la politique de la ville, et on voit que l'échec que c'est, mais il faut prendre une solution intermédiaire. Donc, dans le cas de notre proposition pour ces quartiers dits sensibles, il est évident qu'aujourd'hui, on parle des problèmes de sécurité, on parle de problèmes de territoire hors de la République. Eh bien, il ne s'agit pas effectivement d'envoyer l'armée et de faire une occupation des lieux. Il ne s'agit pas non plus de raser les bâtiments, parce qu'on sait que de toute façon, les populations demeurent, mais il s'agit de trouver l'unification avec dans le territoire. Alors ça a plusieurs avantages. Ça veut dire d'ailleurs dans ce quartier qu'ils ont des voies qui vont être en continuité avec la ville, donc on ne se sentira plus étranger à la ville puisque on sera dans la continuité. Alors ça veut dire aussi que ces voies seront des voies sécurisées pour ce dont on a parlé, c'est la police, les pompiers, les médecins et les ambulances, mais aussi toutes les personnes qui vont se promener, et là, effectivement, on pourrait dire que, par exemple, les différences vestimentaires, elles seront réduites, comme on ne se promène pas en bikini rue Alsace. Et donc, il y a des codes qui seront, je veux dire, implicites par rapport à cela. Alors, on peut effectivement aussi penser qu'il y a un côté à la fois un peu plus répressif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des caméras de surveillance qui fait que cet endroit, eh bien, il n'y aura pas de poubelle renversée, il n'y aura pas de tags sur les murs, ou du moins s'il y en a, ils seront ou verbalisés ou immédiatement enlevés, il n'y aura pas de voiture à brûler, etc. Parce qu'on sait qu'il y aura des interventions qui seront faites sur cet espace. Alors, entre le tout et le rien, c'est-à-dire aujourd'hui où on dit la police ne peut plus rentrer dans ce territoire et des solutions qui vont être brutales, totalitaires, il faut trouver justement une lecture qui unifierait les quartiers les uns aux autres, donc qui créerait cette communauté qui aujourd'hui, si on entend les hommes politiques, les journaux, si on lit les journaux et l'actualité, est mise à mal et il faut trouver dans le passé les solutions à nos problèmes. Voilà donc, c'était mon propos qui était d'une proposition qui me paraît à la fois relativement simple à mettre en œuvre. Il s'agit qu'une très faible partie du territoire, donc cet aménagement n'est quelque chose qui pourrait être rentabilisé comme Haussmann a très bien su le faire, parce que dans le propos de Haussmann, justement, de ne pas raser tous les quartiers, il s'est rendu compte qu'en fait, la solution dite haussmannienne de couper à l'intérieur des îlots en conservant les rues, eh bien, on faisait du foncier et des valorisations et on trouvait des équilibres économiques. Bon, tout ça, ce sont des ficelles que l'on peut mettre en œuvre pour que ce ne soit pas des travaux gigantesques, impossibles, comme d'ailleurs cette espèce de puissant fond qui est la politique de la ville et qui non seulement n'a pas produit les effets escomptés, mais on peut dire c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est de pire en pire. Donc c'est un échec total et il serait temps aussi d'un autre pays qui a du mal à assumer ses propres erreurs et en tirer des leçons, bah, il serait peut-être temps de tirer un trait sur certaines politiques et pour faire de nouvelles expériences. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.